J'avais déjà porté un message pour ceux qui le savent, mais il y a des nouveaux. Et puis, je vous dirai tout à l'heure qu'on a besoin de réentendre ce sermon sur la montagne qui est à la base, qui est le début de l'enseignement de Jésus. Parce qu'il a dit qu'il faisait des miracles, qu'il, dans vos Bibles, vous verrez dans Matthieu, il faisait des miracles, il faisait tout plein de choses, il commençait à avoir une notoriété pas possible, tout le monde parlait de Jésus. Et là, c'est la première fois qu'il est sur cette montagne. Vous savez que montagne, on peut utiliser l'écho, on n'a pas besoin, c'était les sonorisations d'époque, l'amplification. Et il est dit qu'il se mit à enseigner les disciples. Et alors là, l'enseignement était long, c'est tout le sermon sur la montagne. Et il commence par les béatitudes, mais on y reviendra, les 9 béatitudes. Mais après les 9 béatitudes, il dit ceci: soyons sel et lumière. Et donc c'est un peu dans cette perspective qu'il faut comprendre ces béatitudes, parce que la conclusion de Jésus, c'est: si vous avez compris ce message sur sur les béatitudes qu'on va étudier tout à l'heure, eh bien vous devez être capable d'être sel et lumière dans ce monde. Alors, je vous invite à les lire, c'est Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Vous voyez, c'est une question d'identité. Nous sommes sel. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe, si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure de grain ou sous le boisseau. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière. On ne fait pas, on ne fait pas quelque chose qui sale, mais nous sommes celui qui devons saler la terre, et nous sommes la lumière. Donc nous devons incarner le message, nous ne devons pas simplement le proclamer, le dire, mais l'incarner. Donc cet enseignement est d'ordre missionnel. Depuis 2 mois ou 1 mois et demi, je vous parle de l'Église missionnelle. Eh bien, voilà un exemple de ce que ce néologisme de missionnel, que vous ne trouverez pas dans le dictionnaire, puisqu'il n'a pas encore été accepté par l'Académie française, eh bien, veut dire. Missionnel veut dire ce que Jésus vient de nous dire au travers de sa parole. Jésus exhorte à ce que nous soyons vus. Voyez-vous, pas ce que nous soyons dans une église refermée sur nous-mêmes, bien que ça aussi c'est une réalité, que nous devons, aujourd'hui nous sommes refermés sur nous-mêmes, en quelque sorte, le monde n'est pas là, le monde est dehors, mais ce que nous devons, c'est être vu comme chrétien. Donc visible, c'est la visibilité, être public, pas uniquement privé. C'est vrai que dans notre pays, en 1905, il y a eu cette séparation de l'Église et de l'État avec l'aspect privé-public. Donc on se déclare privé en tant qu'association culturelle parce que voilà, on bénéficie d'un certain nombre d'avantages. On pourrait être 1901, ce n'est pas le problème. Mais en tout cas, on doit être privé. On peut pas. On a fait pas mal d'évangélisation. Il y a un certain nombre d'années, ça marchait. Les dernières années, dès qu'on mettait le nez dehors, il y avait les policiers qui venaient, municipaux, qui nous arrêtaient. Quand je suis allé là-haut avec l'équipe de CFNA qui était là, qui ont fait des danses formidables, enfin des human videos et tout ça. Ah ben, au bout de quelques minutes, les policiers qui sont venus, qui m'ont arrêté, alors qu'ils me connaissent, ma mère me connaît, ils m'ont demandé ma carte d'identité, je leur ai donné. ils ont dit, vous allez la chercher à la mairie parce qu'on vous la prend. Et vous dégagez tout de suite. Voilà. Voilà la réalité qu'on a connue. Bon, heureusement, ce premier adjoint qui nous en voulait n'est plus là. Le Seigneur s'en est occupé. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait cette... les choses changent, vous savez, hein, Dieu s'en occupe. Donc on n'a pas réessayé depuis, mais je pense que les autorités sont plus favorables en ce moment. C'était un contexte. Mais bon, on a essayé. Une fois, deux fois, à chaque fois, on s'est fait arrêter. Bon, rentrez chez vous, faites ça chez vous, mais pas ici. Comment fait-on? Puisque Jésus a dit, on doit être visible. Alors bien sûr, vous le faites au quotidien, j'espère, être celle et lumière dans votre travail, etc. Mais je pense que l'Église aussi peut être visible en tant que communauté. Donc, c'est le caractère missionnel. Jésus exhorte à être vu, comme il dit, vu par les hommes, afin que la gloire revienne à Dieu seul. Et je reprends le verset. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Voilà, donc déjà, vous voyez, au départ des béatitudes, avec la conclusion, eh bien, on pourrait résumer en disant « soyez missionnels ». C'est ce que Dieu nous a donné au niveau de la vision de l'Église. Alors ensuite, si on prend la fin de Matthieu, alors c'est pas 5, c'est 25, il y a une erreur. C'est le deux derniers versets. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Donc ça, c'est la conclusion de l'évangile de Matthieu. Et là, on est dans la grande commission, ce qu'on appelle la grande commission, ou la mission que Jésus a donnée à son Église. Et les missions, donc on verra plus tard qu'il y a des petites missions, il y a la grande mission qui s'adresse à toute l'Église, quel que soit son lieu, son origine, sa race, etc. Et aussi des missions spécifiques que Jésus a données à faire à l'Église. Donc là, on est dans le faire. À la fin, il a envoyé ses disciples faire la mission. Et au début, on est dans l'être missionnel. Donc on peut distinguer deux types de missions, la mission intérieure et la mission extérieure. Ce matin, comme tous les dimanches matins, j'écoute les émissions protestantes et orthodoxes. Et l'émission orthodoxe, il disait que pour eux, c'est évident, dans l'Église orthodoxe, qui distingue ces deux missions, mission intérieure, mission extérieure. Intérieure, c'est s'occuper des brebis à l'intérieur de l'Église, de la communauté, etc. C'est important. Et à l'extérieur, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que notre témoignage soit visible dans le monde et aller vers l'extérieur aussi, ce que nous faisons en soutenant. Nous n'allons pas, mais nous soutenons vers l'extérieur. Alors, venons-en au texte des Béatitudes lui-même, heureux. Dans la Bible, il est utilisé le mot heureux. Les bienheureux en marche. Alors, c'est la version Chouraki. Chouraki, vous savez qu'il a traduit la Bible, parce qu'il a un arrière-plan juif. Et donc, il a fait une Bible qui est contestée, mais en tout cas, c'est une traduction dynamique, c'est-à-dire qu'il a essayé de rendre ce que lui, en tant que juif, comprend quand il, en tant que chrétien, quand il lit le Nouveau Testament. Alors Jésus va énoncer 9 qualificatifs, qu'on verra plus tard, on n'en verra qu'un aujourd'hui, 9 qualificatifs pour être disciple, pour être son disciple. Et cela au service du royaume, parce que Jésus est venu apporter le royaume. Le royaume de Dieu est venu dans la personne de Jésus, dans ce monde. Et il veut que nous ayons ces qualificatifs pour être sel et lumière. Pour être sel et lumière, il faut que les 9 éléments de cette béatitude, nous les incarnions. Et ce n'est pas une mince affaire. Hein. On les verra un petit peu les uns après les autres. Et en ce début d'année, voyez, dans l'Église, comme dans beaucoup d'associations, il y a même des églises qui font leur bilan, leur budget sur l'année scolaire. Donc, quand je dis ce début d'année, c'est l'année scolaire, parce qu'on a tous passé les vacances, j'espère. En tout cas, nous, on a bien passé les vacances en Bretagne et on avait un soleil magnifique. Donc, quoi, il n'y a pas besoin d'aller aux Baléares. On était ravis. Et donc, en ce début d'année 2021-2022, eh bien, notre nouvel appel que nous avons reçu du Seigneur, c'est un appel missionnel. La parole de Dieu nous rappelle les 9 dispositions de cœur qui sont nécessaires pour accomplir le but de cet appel. Et le but, c'est glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Pas les hommes, pas une communauté, pas. C'est glorifier Dieu. Dans notre génération, c'est-à-dire aujourd'hui, pas demain, chaque génération a besoin d'être présent dans ce monde. Et nous, nous sommes ici grâce à la vie que Dieu nous donne. Et dans notre communauté urbaine, c'est-à-dire dans la cité, alors c'est dans la cité, mais notre cité, vous savez, nos autorités ont modifié un peu, parce que la France augmente, on est dans l'Europe et tout ça, donc on est maintenant une cité, une communauté urbaine, le Grand Paris Seine-et-Oise, qui est aujourd'hui la plus grande de France, 417 000 ou 430 000 habitants. Après, il y a les métropoles. Hein. Après, cette communauté urbaine, il y a les métropoles de Rouen, métropole de Bordeaux, etc. Et ensuite, après, les communautés urbaines, puis après, les communautés communes, puis après, voilà, bon, ils ont créé maintenant ce qu'on appelle un peu le millefeuille administratif. Mais dont il y a les compétences réelles qui sont représentées ici à Elizabethville, puisqu'ils ont créé un centre où ces responsables bien, puis, peuvent avoir l'autorité sur cette grande communauté urbaine où ils veulent développer dans cet axe-là, développer dans cette vallée de Seine, eh bien, une dimension économique nouvelle avec toutes les compétences qui s'y trouvent. La conséquence de cet appel, eh bien, cet appel missionnel nécessite une réorganisation des responsabilités de la direction de l'Église, à savoir un pasteur titulaire. Que je suis et qui va me consacrer à cette mission extérieure. Et un pasteur opérationnel qui se consacre à la mission intérieure, les membres de l'Église, de l'EPE. Le Seigneur m'a poussé déjà cet été. Alors, quand je vous dis poussé, si je vous disais vraiment que c'est le Seigneur, vous seriez étonné. J'ai pas le temps ce matin ce sera dans un autre contexte que j'expliquerai le fait que Dieu m'a poussé à créer une association qui s'appelle Concourence, Concourir tous ensemble, hein, Concourence Seine-et-Oise, donc qui couvre ce périmètre, hein, de la communauté urbaine. Et en fait, elle est équivalente, presque copier-coller, de We Are Family. Il y en a qui connaissent We Are Family? Alors, c'est l'association que Luc Maroni, alors ton frère y est, hein, il l'a même présenté, ils ont présenté plusieurs fois, même Luc, We Are Family. Donc, We Are Family, c'est une association qui regroupe des chrétiens, mais qui ne font pas référence à l'Église. C'est des chrétiens. Des chrétiens, bien sûr, bien engagés, et tellement engagés qu'ils sont responsables de projets. Et ils rentrent dans les projets. Donc, c'est ouvert aux chrétiens qui vraiment veulent s'engager dans cette mission extérieure, pas uniquement dans l'Église. Et donc, cette association qui associe des gens de différentes églises, c'est ouvert à toutes les églises, eh bien, est équivalente aussi bien We Are Family à Lens, mais il y a la même à Auch. Hoche, c'est exactement copier-coller. En plus, ils ont adopté le We Are Family, le même nom. Et ensuite, après, il y a des créations comme la coopérative, etc. Donc, cette association nous place au cœur de la vision d'RNC. Et quand j'en ai parlé à Jean-Marc, il était ravi, ravi. Il dit: Ah, ça fait longtemps que vous devriez avoir compris ça. Je dis: Mais écoute, il n'est jamais trop tard, hein, de comprendre les choses. Donc, il était absolument ravi de cette orientation que Dieu nous a donnée. Et Luc Maroni, alors je ne vous parle pas, lui, il sautait au plafond. Bon. parce que c'est sa vision qui porte, y compris l'Église tout entière, et dans cette vision. Donc maintenant, il faut lancer cette association sur les fonds baptismaux. Donc je me suis déjà présenté à la pastorale de Saint-Germain. Cette semaine, je vois la faculté de théologie. La semaine prochaine, je vois la pastorale du Montoir. Ensuite, après, je vois le PTCE, etc. Donc voilà, je suis déjà en marche dans cette optique de rassembler les forces vives dans cette région pour que nous puissions devenir publics, visibles, que notre témoignage puisse être visible, mais avec toutes les compétences de la région. Tous les chrétiens qui ont reçu un mandat, qui ont reçu une compétence, eh bien, ils vont le mettre au service de cette mission. Et je vais me concentrer sur le pouvoir stratégique, enfin sur l'action stratégique en interne, et déployer ce projet Concourence, qui sera la structure porteuse de la coopérative, puisque là aussi, le Seigneur a levé Maggie, qui va donner sa démission le 31 décembre, et elle sera sans emploi pour passer directrice de cette coopérative en démarrage. Bien sûr, avec l'aide de Luc, qui est en formation avec Luc. Donc, il faut se lever. Il faut se lever et marcher. Et c'est ce que j'ai fait avec l'aide du Seigneur. Je me suis levé parce que j'ai entendu l'appel de Dieu dans ce sens. Alors, on va voir ces béatitudes. Ces béatitudes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est heureux, mais on pourrait traduire par bienheureux. Même Dieu, d'ailleurs, est cité comme bienheureux à deux reprises. Hein, le bienheureux. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous rend heureux. Non pas parce qu'on va avoir tout un tas de biens matériels, hein, comme le monde nous propose, on va consommer, mais on sera heureux de servir le Seigneur. Et c'est ça qui est la plus grande joie pour un disciple, c'est de servir le Seigneur. Dans la période où Jésus est sur la terre, il prononce ses discours. Et c'est un peu comme une charte, hein, l'ensemble du sermon, mais en particulier les béatitudes, c'est comme une charte. Vous savez, une charte, c'est... nous, on a une charte de valeurs, par exemple, ben c'est la charte du royaume, qui est introduite par ces béatitudes. Et béatitude désigne le bonheur que Dieu donne à ses élus. Et il veut que nous soyons dans le bonheur, et vous voyez, c'est une bonne nouvelle en ce début d'année. Et les béatitudes désignent plus spécifiquement les expressions, donc bienheureux. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des difficultés à comprendre ces béatitudes. Hein. Depuis que l'Église existe, il y a eu des incompréhensions. Alors, il y a deux difficultés majeures que je voudrais essayer de vous faire comprendre dans cette compréhension des béatitudes. La première difficulté, qui d'ailleurs se trouve aussi dans d'autres passages des évangiles, c'est à qui Jésus parle-t-il ? Ça, c'est la première difficulté. Jésus parle-t-il des croyants de l'Église ou des croyants du résidu pieux des temps de la fin ? Alors, résidu pieux des temps de la fin, c'est une expression d'une traduction directe. Hein. Résidu ou reste, c'est un peu la même chose. Et là, vous pouvez, je renvoie à Romains chapitre 9, verset 27, et chapitre 11, verset 5. Un reste, vous savez, à la fin, il n'y aura qu'un reste. Hein. Nous, on pense qu'à la fin, il y aura une multitude. Bah, Jésus annonce qu'il y aura un reste. Donc, est-ce que nous sommes dans ce reste ? Est-ce qu'au temps de Jésus, il y avait un reste, etc. Reste ne veut pas dire méprisable, ou de peu de valeur, au contraire. Reste, dans la Bible, veut dire ceux qui retrouvent les caractères originaux, les pleines valeurs, et qui est précieux pour Dieu. Donc, vous voyez, nous, bien sûr, dans le vocabulaire, reste, bon, c'est un reste, on le donne aux chiens, etc. C'est pas du tout dans ce contexte que la parole de Dieu parle d'un reste. Un reste qui a la foi et qui va servir le Seigneur. C'est simplement parce que ce reste est précieux pour Dieu. Parce qu'il met tout son amour, toute sa confiance dans ce reste qui va le servir. Et ces juifs pieux, qui se repentirent donc du rejet du Messie, ils entreront dans son règne avec lui en portant ses caractères des béatitudes. Et à la fin, les chrétiens et les juifs seront associés, sans être fusionnés, dans cette expression « reste pieux » qui doit refléter ses caractères. Vous savez qu'il y a différentes visions hein, de la fin du monde. Il y a les post-millénaristes, les amillénaristes, les pré-millénaristes, voilà, et que sais-je. Parce qu'il y a le millénium. Et donc, c'est toute l'interprétation apocalyptique du livre de l'Apocalypse. Mais globalement, ils sont tous d'accord que, eh bien, on va aller dans un autre millénium, un autre règne, qui est le règne où Jésus va régner sur les hommes pendant un temps. Alors, ce ne sera pas 1000 ans, certainement, de nos années à nous, mais en tout cas, un temps assez long avant que tout soit renouvelé. Et il faut être dans ce reste. Et on sait que depuis 1948, Dieu a fait quelque chose qui est un miracle, c'est de ramener le peuple juif dans la nation d'Israël. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Donc, déjà, au temps de Jésus, quand il est ressuscité, la fin a commencé. Mais la fin continue, 2000 ans après, on est encore dans la fin, vous voyez, mais on est peut-être dans la fin de la fin. Alors il y a peut-être la fin de la fin de la fin, ça je ne sais pas, on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir, en tout cas, on est plus près de la fin qu'il y a 2000 ans. Et cette fin-là, eh bien, elle est ponctuée par le retour d'Israël, qui va retrouver une place dans le cœur de Dieu et dans l'activité de la préparation de la venue de Jésus. Et donc, c'est ce reste pieux, hein, peu importe la dimension qu'il a, c'est pas 144 000, hein, non, c'est aussi un chiffre symbolique, mais je ne sais pas, en tout cas, ce n'est pas tous les chrétiens. C'est des chrétiens qui ont les valeurs de ces béatitudes, qui participeront pleinement au programme que Dieu a prévu pour accueillir le Seigneur Jésus. Tout d'abord, il nous faut garder à l'esprit que Jésus voit dans ses disciples tantôt l'embryon de l'Église, puisque à l'époque de Jésus, l'Église n'existait pas, mais les disciples étaient l'embryon, c'était ceux qui allaient créer l'Église. Donc Jésus, quand il s'adressait aux disciples, il voyait dans sa vision l'embryon de l'Église naissante, et tantôt les croyants pieux du résidu juif de la fin. Parce qu'à son époque, eh bien sûr, les Juifs l'ont crucifié, mais il y en a qui l'ont accueilli, ne serait-ce que Simon, qui a reconnu le Messie, qui était là pour le présenter dans le temple, Nicodème, etc., et puis les disciples hein, qui étaient juifs et qui l'ont accueilli. Donc c'est ce résidu juif auquel il s'adresse et au premier embryon de l'Église. Donc vous voyez, c'est toujours un reste. Hein. C'est toujours un reste. C'est pas tout le monde, pas tous les juifs qui l'ont connu, et c'est pas tous les chrétiens qui vont être évangélisés, qui l'ont connu. Le christianisme s'est bien développé, mais au départ, ils étaient 12. On commençait avec 12. Vous voyez, nous sommes sur une frontière. Disons que l'évangile, au temps de Jésus, on est entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne, parce que Jésus est là, parce qu'il a été annoncé comme étant le Messie, et nous ne sommes pas encore pleinement dans la pleine bénédiction qui, elle, va être dévoilée dans les épîtres, hein, Paul, Pierre, etc., dans les épîtres. On va pleinement voir ce que l'Église doit être, etc. Parce qu'à l'époque, quand Jésus parlait, il n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité. Donc il parlait d'un futur qu'il allait incarner, mais qui n'était pas encore présent. Alors pourquoi ne pas envisager, et c'est le propos que je vous propose, c'est de voir le reste comme les deux, juifs et chrétiens. Puisque Jésus lui-même l'a envisagé comme ça, on peut à la fin, vous voyez, le début et la fin se ressemblent, à la fin, ben, juifs et chrétiens sont de nouveau rassemblés dans ce reste qui va accueillir le Seigneur. Certains, parce que nous attendons le Seigneur, Maranatha vient, et d'autres parce qu'ils verront. Ils seront éclairés par la puissance du Saint-Esprit pour reconnaître qui ils ont crucifié et qui vont reconnaître comme leur Messie. Vous savez, croire des choses un peu contraires, les juifs et les chrétiens, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange, tout ça. Bon, on peut très bien prendre l'image d'un père qui s'adresse à l'un de ses enfants, hein, admettons qu'il y a trois enfants ou deux enfants, admettons, ça simplifie les choses. Il y a un père qui s'adresse pendant le repas à un enfant. Eh bien, les autres peuvent tirer profit de ce qu'il enseigne, vous voyez, même si ce n'est pas directement adressé à lui. Donc, je veux dire par là que Jésus s'adresse aux Juifs et aux chrétiens, et les deux peuvent tirer. À l'époque, c'était les Juifs qui devaient rentrer. Aujourd'hui, c'est aussi les Juifs qui doivent rentrer, mais c'est aux chrétiens qui s'adressent, et les Juifs entendent la voix du Seigneur. Voilà, donc, considérez les deux, Juifs et chrétiens, qui sont associés dans le reste. La deuxième difficulté de ce texte, c'est le mot « bienheureux ». Alors, le thème grec, il faut remonter à l'origine, pourquoi ce mot a été choisi par Matthieu, c'est « makarios ». « Makarios » en grec, qui veut dire « bienheureux »,« heureux », »,« chanceux ». Et ce terme signifie qu'une personne est bénie de Dieu et que cette bénédiction la remplit de joie, la rend heureuse. Il correspond aussi au terme hébreu, qui s'appelle Hachéri, qu'on le retrouve 26 fois dans les psaumes, et 8 fois dans les proverbes, et 3 fois dans Isaïe, et qui est compris de différentes façons par les hébraïsants. Il peut être une interjection, une exclamation « heureux ». Donc ça correspond au grec « makarios ». Mais, ou alors au pluriel, les bonheurs, traduit par « oh, les bonheurs de », et les bonheurs de ceci, cela. Ce mot au singulier, qui s'appelle, ce mot qui est « écher », vient d'une racine verbale qui signifie, à la forme intensive, « mener »,« guider », et à la forme simple, « marcher », d'où la traduction dynamique de « chouraki » en marche. Vous voyez, donc, là, pourquoi Chouraki, au lieu de dire bienheureux ou de dire heureux, il a dit en marche. Parce qu'il est remonté à ses racines hébraïsantes qui amènent un autre éclairage. Ce n'est pas dire qu'heureux n'est pas bon, mais il veut aussi dire en marche. Alors, il y a une théologienne suisse que je ne connais pas, hein, Thérèse Glardon, a écrit à propos de la traduction de Chouraki pour ce terme précis des béatitudes. Ce dernier rapprochement en marche suggère non des bonheurs statiques ou des satisfactions béates, hein, voilà, je suis dans le bonheur, vous voyez, comme un peu zen, mais des bonheurs dynamiques, toujours à découvrir, toujours neufs, et qui nous mettent en mouvement. Ah là là, d'ailleurs, on retrouve la pensée missionnelle. C'est-à-dire que c'est un bonheur. Le Seigneur nous dit, voilà, les neuf béatitudes, heureux, heureux, c'est-à-dire en marche. Levez-vous en marche. Et vous serez heureux. Vous serez heureux parce que vous allez me servir. Vous serez heureux parce que vous n'allez pas regarder votre nombril, mais vous allez me regarder moi et me servir, et dans le service, vous serez heureux. Vous voyez, c'est ça. C'est un aspect dynamique du bonheur. C'est pas un bonheur consommateur. Je consomme du bonheur. Je viens à l'église, je veux du bonheur. Je viens à ceci, je viens à cela, et j'ai du bonheur. Non. Et vous le savez très bien. Quand vous amenez quelqu'un au Seigneur, le bonheur que vous avez de le voir découvrir le salut en Jésus-Christ, ce n'est qu'un exemple. Quand vous voyez quelqu'un qui accepte de devenir disciple, c'est-à-dire de se soumettre, au lieu de se révolter parce qu'il était blessé, vous l'avez aidé à guérir, eh bien, c'est un bonheur de voir que la personne va rentrer dans sa destinée, etc. etc. Je pourrais multiplier les exemples. Et deux fois dans l'Écriture, Nouveau Testament, la qualité de makarios, donc de ce bonheur, est donnée à Dieu. C'est dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 11, et dans 6, verset 15. Alors, comment concilier cet aspect bonheur et en marche? Eh bien, il faut penser à la dynamique d'une espérance, à la dynamique d'un but. Et on pourrait dire, pour concilier les deux expressions, Makarios et Escher, c'est « en marche les bienheureux ».« En marche les bienheureux ». C'est une interjection 9 fois, « en marche les bienheureux ». Sous-entendu, les bienheureux vers le royaume de Dieu. Sur la route du bonheur qui conduit au royaume. Donc nous retrouvons d'ailleurs cette pensée dynamique, cette marche en avant, dans plusieurs passages que je n'ai pas le temps ce matin de vous lire, mais c'est Ésaïe 35:5, 42, 43, 51 et Apocalypse. Alors je vais lire Apocalypse chapitre 7, qui montre que c'est un bonheur en marche. Que les bienheureux sont aussi en marche et que c'est parce qu'ils sont en marche qu'ils sont heureux. Puis j'entendis, dans Apocalypse, donc puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël, etc. Je passe toute la lignée des tribus. Tous marqués de cette empreinte. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tiennent debout. Pas assis, debout, debout, prêt à marcher. Debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent, et le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau est au milieu du trône. Prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute larme dans leurs yeux. Quand vous lisez ça dans cette perspective, vous voyez la dynamique. Ce n'est pas statique. C'est peut-être Jésus qui est assis. Mais nous, on n'est pas assis, on est debout, on sert. Il y a tout plein de services dans le royaume aujourd'hui et demain et plus tard. On ne sera pas juste là en train de jouer de la harpe comme certaines imageries l'ont présenté, bien que j'ai rien contre l'harpe. Peut-être un jour on aura une harpe ici. On a déjà des harpistes, mais j'ai rien contre ça. Mais c'est pas ça. C'est être en marche pour servir le Seigneur, et c'est là qu'on a le bonheur. Vous voyez, c'est l'action de le servir qui nous rend heureux. Alors, venons-en à la première béatitude, et on va s'arrêter là. Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Alors vous savez, Matthieu, qui était hébraïsant, il ne voulait pas parler Dieu, parce que ce n'est pas possible pour un juif de nommer Dieu, donc il parle cieux. En fait, c'est de Dieu, c'est la même chose, le royaume de Dieu. Verset 3. Alors, il n'y a pas beaucoup de béatitudes, on en verra 8 autres. Il n'y a pas beaucoup de béatitudes qui ont donné autant de malentendus que celui-là. Il y a beaucoup de malentendus sur cette première béatitude, voire même des sarcasmes. On entend des sarcasmes sur cette béatitude. Alors, Jésus a-t-il voulu dire que ceux qui s'avancent vers le royaume de Dieu doivent nécessairement posséder un quotient intellectuel déficient ? Ou manquer d'instruction, ou pire, que ce soit des gens au psychisme altéré, voyez, pauvres en esprit. C'est le problème du langage, c'est le problème des mots. Les mots qu'utilise la parole, on les utilise au quotidien, et donc ils ont des significations différentes. Donc il faut bien expliquer le contexte de ces mots dans l'écriture. Non, pas du tout. Jésus a plutôt voulu dire qu'ils doivent être comme des petits-enfants. C'est ce qu'il dira plus tard. Soyez comme des petits-enfants. qui croit simplement. Dire la foi est simple. Jésus a dit, et c'est ce que Jésus va honorer le centenier, en disant, j'ai vu plus de foi chez cet homme que dans tout Israël. C'était un centenier romain, simplement parce que il a demandé à Jésus de guérir son fils. Jésus lui a dit, va chez toi, il est guéri. Il a cru. Il n'a pas discuté. C'est une foi qui prend Jésus au mot, qui croit ce que Jésus dit et qui le voit s'accomplir. C'est ça que Jésus voulait dire. Ce sont des gens alors donc qui croient simplement, qui ne raisonnent pas sur la parole, qui ne sont pas occupés de leur importance personnelle ou de grandeur. D'ailleurs, ils ne sont pas importants pour le monde et le monde n'est pas important pour eux. Ils peuvent même être méprisés, ce qui a été le cas des premiers chrétiens et c'est ce qui est le cas des disciples de Jésus. On peut être méprisé. On n'a pas besoin de chercher. Mais quand ça vient, eh bien, ça peut être le cas. La seule chose qui compte pour ces bienheureux, c'est qu'ils se sentent aimés. Vous savez, quand on se sent aimé, ça donne des ailes, non? Quand on se sent méprisé, ah ben, vous ne décollez pas, hein, vous ne prenez pas de vitesse. Vous savez, un avion, c'est plus de 200 km à l'heure, sinon on ne décolle pas. Il faut une certaine vitesse sur les ailes. Eh bien, quand on se sent aimé, regardez, quand vous avez rencontré votre bien-aimé pour la première fois, vous avez des ailes. Rien ne vous arrête. Rien. Je parle en connaissance de cause. Oui, ben, on se sent aimé. Eh bien, on est prêt à tout pour le Seigneur. Et n'est-il pas désirable que pour nous, nous soyons comme ça? Alors, je vous laisse regarder Matthieu 18, 1, verset 4. Alors, attention. Une fois que j'ai dit ça, il faut que je dise autre chose. Ce que je viens de dire, ça ne veut pas dire qu'il faille laisser la raison au porte-manteau. Parce que c'est ça le problème, c'est que les chrétiens sont souvent binaires. Ils disent, ah oui, on peut utiliser la raison, donc je n'utilise pas la raison et la foi. Voilà. Et donc du coup, on sépare les choses qui ne sont pas séparables. La raison a sa place. Et la raison même peut même fortifier sa foi. Moi, depuis que j'utilise ma raison, j'ai plus de foi qu'avant. Ah oui. Pendant le Covid, je regardais des documentaires d'Arte avec Michel. J'ai dit, waouh, incroyable. En fait, ce qu'on découvre, eh bien, ça magnifie la parole de manière beaucoup plus éclatante encore, parce que la parole parle en mots, si vous voulez, comme l'apôtre Paul. C'est pas des scientifiques, l'apôtre Paul, et c'est pas non plus un livre scientifique. Mais quand vous regardez la science qui découvre la création et qu'elle vous est présentée, du waouh. Donc en fait, votre foi va être augmentée par la conscience que Dieu est derrière tout ça. Et en fait, c'est le quadrilatère wesleyen que, pendant un temps, je vous ai expliqué, je sais que vous aimez bien. Ben, c'est ça. Le quadrilatère wesleyen dit « L'essentiel de la foi est révélé dans les Écritures, éclairé par la tradition, vivifié par l'expérience et confirmé par la raison. » Confirmé. Aujourd'hui, si j'utilisais pas ma raison, je ne pourrais pas vous prêcher ce matin. C'est pas possible. C'est la raison qui permet d'articuler les éléments entre eux, etc. Oui. Donc, c'est la raison, bah, servir. Pour servir Dieu, on l'utilise. Mais ce n'est pas pour exercer la foi. Oui. Mais ça va augmenter la foi pour la servir, etc. Et c'est dynamique, on est de nouveau dans une dynamique. La raison nous permet de comprendre, c'est-à-dire de prendre en nous, comprendre les choses, pour être motivé à animer la foi encore plus, pour confirmer cette parole. La raison sert à nous émerveiller de la création de Dieu. Le problème en France, qui est très leader dans les idéologies, c'est que au moment des Lumières, c'est le 18e siècle, j'ai eu beaucoup de mal à mettre ça dans le crâne, parce que je ne suis pas littéraire, je suis pas. Voilà. Je suis obligé de m'y mettre. La Renaissance, c'est le 16e, et les Lumières, c'est le 18e. 18e, c'est l'encyclopédiste, c'est la connaissance, etc. Eh bien, à la fin de ce siècle de Lumière, où la raison a dominé, elle a été établie comme idole. Ah, rien que ça. Les révolutionnaires ont saccagé les églises, ils ont profané tous les cultes, ils ont pris des prostituées et les ont mises sur les autels catholiques, ils ont enlevé d'ailleurs les reliques pour désacraliser l'autel, enfin voilà. Et ils ont dit, ça l'est, la raison. Et on adore la raison. Donc là, c'est l'extrême de la raison. C'est l'idole de la raison. Et c'est pour ça qu'il y a une malédiction sur notre pensée. Parce que si on ne sort pas de cette raison, moi j'ai dû me repentir de ça, pour que cette raison soit renouvelée. L'apôtre Paul d'ailleurs le dit dans Romains 8, soyez renouvelés dans votre intelligence, mais pas la mettez là, ne la mettez pas au porte-manteau. Ça c'est débile. C'est ne pas comprendre ce que dit la parole. Donc il faut que la raison soit là, mais ne soit pas une idole. Soit pas à la première, c'est la première, c'est la foi. Le livre de la sagesse. Il y a cinq livres de la sagesse. Dans d'autres Bibles, il y en a un peu plus, mais dans les Bibles protestantes qui ont repris les livres hébraïques, il y a cinq livres de la sagesse. La sagesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire la philosophie. Aimer la sagesse. Alors, il y a des chrétiens, oh non, non, philosophie, attention, faut se méfier, c'est contre Dieu, c'est contre Dieu. Non. La philosophie, la définition, c'est savoir comment se comporter dans la vie. Tout le monde a une philosophie. C'est comment se comporter. Quel est votre comportement? La foi, c'est comment je suis relié à Dieu, que je crois, et la philosophie, c'est comment je me comporte dans la vie. Et le livre des prophètes, pardon, des proverbes, etc., tous les livres de sagesse, c'est ça l'objectif, c'est de nous aider à nous comporter socialement, comporter dans la vie, eh bien, de manière sage, selon les critères bibliques. Alors, c'est pas du tout évident de lire les livres de la sagesse, parce que parfois, il faut comprendre l'inverse de ce qui est dit, etc. Voyez. Donc là, il faut être un peu aidé à comprendre les livres de sagesse, mais c'est pas parce qu'ils sont difficiles. Et là, les docteurs sont là. Il y a un temps, on a fait beaucoup de rencontres œcuméniques entre catholiques, protestants ici sur Aubergenville, et on écoutait un petit peu ce que disaient les catholiques. Et ils disaient, étant donné que eux, ils baptisaient en masse, hein, puisque c'est une église de multitude, et que vous êtes baptisés alors que même vous n'avez rien demandé en étant bébé. Donc là, ils sont obligés de ramasser tous les gens qui sont baptisés et de les former. Eh bien, comme ils ont vu que 99% ne comprenaient pas la Bible, eh bien, ils ont dit, bah, on a fait des extraits. On a pris, donc ils ont le missel, ils ont des choses, voilà. Donc, ils ont pris, voilà, psaume 27, voilà, tout le monde comprend, l'Éternel est mon berger, etc. Mais tous les psaumes un peu difficiles, bah, ou alors même, ils sautent des versets qui sont un peu difficiles, parce qu'ils ne veulent pas les mettre à la portée des gens qui. Voilà. Donc, vous voyez, la sagesse, c'est d'avoir des personnes qui nous guident à comprendre. Et c'est ce qui est le rôle des enseignants dans la parole. Mais la philosophie, c'est quelque chose qui fait partie de ce que nous avons besoin en tant que chrétiens. Il n'y a aucun mal à la philosophie, à condition qu'elle ait une solide fondation biblique et qu'elle est aussi éclairée par une bonne tradition de ceux qui nous ont précédés, y compris les pères de l'Église. Et le Didaquée, c'est aussi un livre qui n'est pas reconnu comme révélateur, mais qui nous parle de ce que les premiers chrétiens ont vécu, et surtout sur le fondement trinitaire qu'on a perdu pendant des années, qui revient maintenant. En conclusion, et je terminerai là-dessus, je suis un peu en retard, excusez-moi. Tous les bienheureux sont en marche vers le royaume. Et Le reste juif pieux, ou le reste juif chrétien, portera en son temps les caractères mentionnés dans ces béatitudes. Ils seront développés en eux par un travail de cœur et de conscience à travers la grande tribulation. Ça, c'est pour les juifs. Donc, n'attendons pas la grande tribulation. Nous pouvons déjà être travaillés, nous qui sommes croyants, par ces béatitudes, hein, sans attendre la tribulation, mais pour les juifs, ce sera le cas. Pour les préparer à la rencontre du Messie, qu'ils avaient rejeté, Zacharie 12. Et les retrouvailles magnifiquement illustrées par l'histoire des frères de Joseph. C'est exactement comme ça que ça se passera pour les Juifs, qui, à la fin, reconnaîtront celui qu'ils ont tué, celui qu'ils ont percé. Pour nous, chrétiens, qui attendons et aimons l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous sommes aussi ces bienheureux en qui le Saint-Esprit forme ses caractères, au travers des épreuves. Voilà, c'est les épreuves, souvent, en tout cas pour moi, c'est des épreuves qui m'ont permis de développer ces caractères, donc ces qualifications des béatitudes et les difficultés de la vie. Alors, levons-nous. Je vous invite... Non, pas physiquement. Bon, vous pouvez vous lever. Mais ce qui est important, c'est se lever intérieurement pour que cette année, on puisse se mettre en marche. Vous voyez, c'est un peu après les vacances, allez, on se lève. Oui. Donc levons-nous, mettons-nous en marche de manière dynamique, car on ne peut pas marcher en restant assis, hein, ou couché. Donc pour cette nouvelle année qui commence avec détermination, avec foi, d'être ces bienheureux, aimés du Seigneur, qui marche avec les valeurs du royaume selon la vision que Dieu nous a donnée. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est toi qui diriges ton Église, et qui nous dirige et qui a donné ta parole, que cette parole puisse profondément travailler dans nos cœurs pour que nous puissions la mettre en pratique chaque jour de cette année qui vient, bien sûr de cette semaine, mais de cette année, que nous puissions vraiment voir des fruits qui te glorifient. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.